Aïe aïe aïe, nous avons fait une sondage des maisons et André Boitler est un...
Par un M, oui, par un R, puis il y a un E, un N, un T, un E, un U entre les deux.
Death. Yes, he is.
Et numéro 1,
Rock. Rocking.com.
My only
is you. New Rock Kick.
You're listening to the most imitated radio station in the nation.
www.rockick.com.
This program contains scenes with nudity, sexuality, violence, and coarse language. Viewer discretion is advised.
Frères et sœurs, recueillez-vous. Il est l'heure de wake up.
Pardonnez-leur, Seigneur, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
Wake up!
Sagt auch, Herr Robert, ist ein Auftrag, rockick.com.
Good morning, everybody.
Explain, what does the word of Ismail's axe mean? In old Hebrew means, God will hear.
Barbasurkick.com, il est 6h46 minutes. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter tout de suite avec Monsieur Reichmann. On va dans le.
Parfaitement en ligne.
OK, parfait. C'est parti. Nous sommes en selle, Monsieur Reichmann, en ce vendredi 18 janvier 2008. Comment allez-vous?
Je vais bien. Nous avons commencé l'année sympathiquement.
Ah oui?
Donc, j'espère que vous aussi. C'est l'occasion pour moi de présenter à tous vos auditeurs, à vous-même d'abord, mon cher ami. Ismaël Trépanier, tous mes voeux de bonheur, de santé et de bonne radio pour l'année 2008.
Je vous remercie.
Et puis, bien entendu, le plus grand succès pour Rockick et puis pour tous nos auditeurs, que tout aille bien pour eux et que le bonheur leur sourit cette année.
Monsieur Reichmann, en ce moment, vous avez près de 163 779 personnes qui sont connectées en ce moment. Pour nous écouter, c'est quand même correct en c'est soi.
Je vais dire bonjour à chacune d'entre elles individuellement.
oui, tout à fait.
On aura fini vers minuit, si vous voulez bien.
Il y a des chances avec ce nombre de personnes qui écoutent en ce moment, qui se sont connectées, qui sont en simultané. Voilà.
C'est bien.
Monsieur Reichmann, mais comment ça se passe en France, là, Nicolas Sarkozy qui a décidé de partir? De quitter sa femme, enfin son ex-femme pour se taper une excusez-moi le terme, se taper une mannequin, excusez-moi ce propos, et en plus il a fait un compte rendu dernièrement devant les journalistes pour parler de ce qu'il a fait, de ce qu'il a conçu jusqu'à présent. Ça va bien, on parle de taxer les téléviseurs, on parle de taxer les téléviseurs et toutes sortes de choses pour que ça se retrouve dans les chaînes de télé publique. J'ai entendu...
Le projet qu'a évoqué M. Sarkozy lors de sa conférence de presse consiste à, à supprimer la publicité sur les chaînes de télévision publique, sur les radios publiques.
Oui.
Et à remplacer, alors au cours de la conférence de presse, il n'a parlé que de la suppression. Bien entendu, ensuite, tous ceux qui vivent de la publicité sont montés au créneau, et donc il est question aujourd'hui de remplacer cette publicité qui représente 850 millions d'euros, plus le temps qu'il faudra combler, puisque la publicité prend du temps d'antenne.
Oui.
Donc il faudra faire des émissions pour remplir cela, qui sont estimées à 400 millions d'euros. Donc c'est une addition qui va coûter 1 milliard 200 millions d'euros environ, et il est question de les récupérer sur les budgets publicitaires des chaînes privées, ainsi que sur toute une série de dispositifs, comme par exemple les ordinateurs, etc. C'est-à-dire qu'on va... La publicité qui ne coûtait finalement rien à personne, sauf aux actionnaires des firmes qui en faisaient, va se transformer en charge publique.
C'est...
Ce qui est une folie de plus, puisque finalement, si l'on supprime la publicité, il faut pas oublier qu'on n'a pas supprimé la redevance, c'est-à-dire qu'on paye déjà des impôts pour avoir des télévisions minables.
Voilà.
Et donc là, maintenant, on va rajouter encore des impôts sur les différents supports que nous utilisons.
Exact.
Si bien que quand nous ferons une émission de Rockick, nous paierons pour les minables chaînes de télévision françaises.
Incroyable.
On me taxera sur mon ordinateur. Heureusement, pas sur le vôtre.
Oui, une chance. Heureusement, comme vous le dites. Je trouve ça complètement mais aberrant. C'est un peu... C'est étrange que cette histoire fasse surface de votre côté, car de notre côté, nous avons aussi une chaîne de télévision, des chaînes de télévision qui sont publiques, Radio-Canada, Radio-Canada qui reçoit par année plus de 900 millions de dollars canadiens. On parle presque de 1 milliard de dollars. Il manque 100 millions et ça fait 1 milliard de dollars pour la télévision publique qui nous offre de la médiocrité incroyable, qui émite les autres chaînes de télévision privées, Monsieur Reichmann, et qui démolit et en plus ils ont droit de vendre de la publicité pour renflouer leurs poches. Alors voilà, ils réussissent à avoir en bout de ligne plus d'un milliard de dollars et quelques poussières au bout de tout cela. Alors
c'est de la folie.
Le
système, un bon système consiste à ne financer par l'impôt que quelque chose qui est vraiment d'intérêt général, par exemple une chaîne culturelle qui apporterait à la fois un plus culturel, qui d'autre part ne tiendrait pas compte forcément des indices d'écoute dans la mesure où ce qui est culturel n'a pas toujours beaucoup d'audience, mais qui également apporterait une garantie d'honnêteté dans les débats politiques, enfin bref, ce qui serait en quelque sorte le modèle d'une chaîne publique.
Exact.
Mais malheureusement, on en est loin, puisque la bonne méthode aurait consisté à supprimer toutes les chaînes publiques, sauf une qui aurait été une chaîne de référence. Ça aurait suffi largement à notre bonheur de téléspectateurs, et de la faire financer uniquement par l'impôt, et pour cela, il n'est pas nécessaire d'avoir énormément de ressources. Vous savez, c'est toujours le même problème. À partir du moment où un créateur est subventionné, il cesse d'être un créateur. Mais... il en est de même pour les chercheurs. Vous connaissez sans doute le mot du général de Gaulle qui disait à propos des chercheurs, notamment du CNRS français, le Centre National de la Recherche Scientifique, il disait « des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche
».
Et donc...
oui.
Eh bien, des gens de la télévision qui font des bonnes émissions, on en cherche, et des gens qui font des bonnes émissions, on n'en trouve pas.
Et donc,
on les cherche sans les trouver. laissons faire les talents, vous savez, les talents sont toujours reconnus. Je vais vous dire un exemple qui n'a rien à voir avec la télévision, mais qui au fond est exactement la même chose. À côté de chez moi, il y avait un boulanger. Alors ce boulanger était assez moyen, il faisait un pain qui était quelconque, des gâteaux qui n'étaient pas formidables, et il avait une toute petite clientèle. S'est installé quelqu'un de plus jeune, un artisan boulanger, qui s'est mis à faire du très bon pain et des très bons gâteaux. Ce matin, en allant acheter ma baguette, j'ai dû faire la queue. Voyez-vous, c'est la même chose pour la télévision. Si vous avez une bonne télévision, des gens qui ont des idées, qui font de bonnes émissions, vous aurez beaucoup de monde qui écoutera, qui regardera. C'est toujours la même chose, il faut faire le pari de la concurrence et le pari de la qualité. Et la qualité ne se décrète pas, elle se choisit par ceux qui sont les téléspectateurs.
Monsieur Reichmann, nous ici, encore là, je trouve que nous avons, nous nous ressemblons sur beaucoup de points. Par exemple, c'est sûr que ce projet est déjà en marche, c'est-à-dire
oui.
de mettre une taxe sur les ordinateurs, les téléviseurs, bon, les lecteurs. Ben, nous aussi, il y a déjà eu cette proposition qui a été faite par Radio-Canada de mettre, par exemple, une taxe sur les lecteurs MP3, sur les iPods de Apple,
voilà.
Ou encore les ordinateurs, les téléviseurs. Tout ça dans un but de redevance pour l'industrie de la musique et de la télévision publique. C'est incroyable.
Oui. Mais l'industrie et la télévision publique, pardonnez-moi de vous le dire, ce n'est pas exactement le même problème.
C'est vrai.
L'industrie a un problème qui est actuellement celui surtout des droits d'auteur. Et vous savez qu'actuellement, la gratuité, c'est-à-dire le téléchargement gratuit, pose un vrai problème de droit d'auteur, et on a vu un certain nombre d'expériences faites ces temps-ci, dont des groupes qui mettaient en ligne leur production musicale en laissant chacun libre de ce qu'il paierait ou de ce qu'il ne paierait pas. Et il est vrai qu'il y a un problème, un vrai problème de droit d'auteur, parce que la gratuité, bon, c'est très bien, c'est sympathique, c'est Internet, ça permet à chacun d'accéder à la culture ou à sa forme de culture, mais il faut reconnaître que le droit d'auteur aussi est un élément important, parce que si vous ne touchez pas de droit d'auteur, vous travaillez finalement pour tout le monde et pas pour vous, et à l'arrivée ça finira par tarir aussi les sources musicales et les sources d'inspiration. Mais dans le cas des télévisions publiques, c'est tout à fait différent, parce que là il s'agit tout simplement de financer des gens dont on ne voit pas en quoi ils font un apport culturel. Et donc, je pense que le mieux, c'est de ne pas taxer, c'est de laisser chacun faire ce qu'il veut faire. Et bon, puisqu'il faut une chaîne gratuite au moins, encore qu'après tout, aux États-Unis, il n'y en a pas. Donc, on pourrait très bien imaginer qu'il n'y ait pas de télévision publique. Moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas outre mesure. Je n'ai jamais eu besoin de l'État pour me cultiver ni pour me renseigner. Au contraire même, j'ai plutôt eu des difficultés à cause de l'État qui met des bâtons dans les roues.
Exactement. Je vous donne un exemple du côté des États-Unis. Ce qui excelle le plus en ce moment, ce sont les chaînes privées et rien d'autre.
Exactement.
Et ils ne reçoivent aucun sou de l'État.
Non, non. Il n'y a pas de chaîne publique aux États-Unis.
Pourquoi nous, hein, les francophones, on agit ainsi? Au niveau du Canada anglais, par contre, je vous dirais qu'il y a des chaînes, la chaîne Radio-Canada, parce que le Radio-Canada, c'est sur le plan pan-canadien, d'accord? Alors, oui, mais par contre, Radio-Canada Québec reçoit énormément des sommes, mais astronomiques, et moi, je ne comprends pas pourquoi on me taxerait deux fois, on m'imposerait deux fois des montants pour le redonner à ces gens-là.
Oui, il y a eu le problème de la subvention ou de la taxation, c'est exactement la même chose. Il y a eu une affaire récemment qui a été tout à fait symptomatique, et vous allez voir qu'il y a un rapport évident. Vous savez qu'en France, il y a énormément de gens qui sont subventionnés, notamment des associations de toute nature et des associations culturelles, ou qui du moins s'appellent ainsi. Et il y a récemment un cavalier artistique qui s'appelle Bartabas, qui est très très réputé, qui est un excellent cavalier d'ailleurs, et qui a monté une académie équestre à Versailles. Alors cette académie a du monde, mais enfin elle n'est pas bénéficiaire, et elle vit en partie de subventions. Bartabas a appris que sa subvention allait être réduite, il s'est précipité dans le bureau de la direction des affaires culturelles d'Île-de-France, et il a tout cassé. Alors, c'est vraiment extraordinaire, parce que finalement, on lui a expliqué que c'était un malentendu, qu'en réalité, sa subvention allait être maintenue, mais c'est une affaire tout à fait symptomatique. J'en ai d'ailleurs fait un article, parce que imaginez que vous, par exemple, vous exercez une profession, quelle qu'elle soit, même celle que vous faites en ce moment, c'est-à-dire animateur de radio. Imaginez qu'il y ait quelqu'un qui vous téléphone, qui vous envoie un mail, et qui vous disent « Monsieur, je ne cotiserai plus à Rockick et je ne vous écoute plus. » Est-ce que vous allez vous précipiter chez lui et tout casser ?
Eh non,
non, évidemment.
Mais non.
Eh bien, Monsieur Bartabas, lui, que je finance, comme tous les autres contribuables, s'est précipité pour tout casser parce que mes impôts n'étaient pas apparemment suffisants pour financer son centre. Et encore, il n'est pas le pire de tous, parce que ce qu'il fait est vraiment très bien, et c'est un véritable artiste équestre. Mais je veux dire que le principe même qui veut qu'à partir du moment où votre subvention n'est pas celle que vous espérez, vous vous manifestiez d'une manière violente et que vous cassiez tout, c'est vraiment le signe d'un État qui est devenu fou. Parce que c'est exactement, si on disait à ce garçon Bartabas, écoutez, c'est quand même formidable, vous venez chez moi, vous mettez votre main dans ma poche, et en plus vous cassez tout. Je dirais, mais non, pas du tout, monsieur, pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai fait, je suis allé dans le bureau des affaires culturelles, oui mais voilà, l'État c'est moi, les affaires culturelles c'est moi qui les finance, et c'est mon argent, donc voilà ce que vous venez de faire. Bon, je suis sûr qu'il serait très surpris. Mais pourtant, c'est exactement ce qui se passe. C'est pour ça que je suis hostile à tout ce qui est subvention, quelle qu'elle soit. Il n'y a aucune raison qu'on subventionne des organismes qui peuvent vivre parfaitement par eux-mêmes. Et s'ils ne vivent pas par eux-mêmes, ben c'est que personne n'a envie d'eux, c'est tout. Bon, le reste, ce qui doit être financé par l'impôt, ce sont les services qui restent publics. Ce sont, bien entendu, les charges régaliennes de l'État, la justice, la police, etc., l'armée. Mais pour le reste, il faut que l'argent privé reste dans les poches privées et que chacun choisisse celui à qui il va donner son argent.
À quelque part, M. Reichmann...
Il y a des clients.
C'est drôle, mais j'ai la nette impression que, dans le fond, ça ne disparaîtra jamais, la télévision publique. Pourquoi? Parce que ça fait trop l'affaire du gouvernement qui est en place, ou enfin des prochains ou des futurs gouvernements. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur message à travers ces télévisions publiques. Et c'est un outil pour eux de propagande. Par exemple, Nicolas Sarkozy utilise sûrement à bon escient ces télévisions publiques, n'est-ce pas?
Non, c'est exactement le contraire. Vous avez raison, votre raisonnement est très juste, mais dans le principe, mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi.
D'accord.
Les télévisions publiques ont des journalistes qui sont presque tous de gauche. Parce que, au fil des années, d'abord parce que chez les journalistes, c'est la tendance dominante, il ne faut pas oublier que 85% des journalistes ont voté socialiste aux dernières élections.
C'est vrai.
D'après les sondages.
Donc,
M. Sarkozy, finalement, est très copain avec M. Bouygues, qui est le propriétaire de TF1, et c'est TF1 qui véhicule ses messages d'une manière très fidèle, alors que les télévisions publiques ont plutôt tendance à véhiculer les messages adverses. Mais, il est vraisemblable que M. Sarkozy veut leur faire une mauvaise manière à cause de cela, en les privant de publicité. Mais ce qui est absolument scandaleux, c'est que les journalistes du service public ne soient pas neutres. Je ne vois pas au nom de quoi nous devrions, nous tous, Français, subventionner un organisme public qui dise, par exemple, beaucoup de bien de la gauche et beaucoup de mal de la droite, alors qu'il y a autant, et sinon plus, de gens qui payent des impôts à droite qu'à gauche. Donc, avec mes impôts, on insulte mes idées. Et donc, c'est cela qui est très mauvais dans le service public. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas simplement une suppression de la publicité qu'il fallait faire. Il faut tout simplement supprimer le service public de télévision, à l'exception éventuellement d'une chaîne qui serait une sorte de chaîne de référence culturelle, et ça suffirait largement au bonheur des Français.
Est-ce que Radio Courtoisie... Je crois que Radio Courtoisie était 100% des dons. Les gens donnaient des dons pour Radio Courtoisie. Il n'y avait pas de subvention qui était...
Non, il n'y a aucune... Non, Radio Courtoisie n'est pas une radio subventionnée. Elle ne vit que des cotisations de ses auditeurs. Elle en vit d'ailleurs de plus en plus mal parce que la qualité de la radio a beaucoup diminué. Non pas à cause de mon départ, mais à cause du fait que ça n'est plus une bonne radio. Mais il est vrai qu'elle n'a jamais touché de subventions publiques. Et d'ailleurs, son fondateur, Jean Ferré, se l'était évidemment interdit, car il considérait que le prix de la liberté, c'était précisément de ne pas toucher de subventions.
Exact. Je pense qu'on ne se cachera rien ce matin, début d'après-midi pour vous, M. Reichmann.
Oui.
On ne se cachera rien. Les subventions, c'est tenir en laisse quelqu'un. On ne peut pas rien dire contre l'État, ou enfin remettre en question, non pas dire des choses malsaines, mais remettre en question l'État, de la manière que la gestion est faite, etc., etc., le nombre de fonctionnaires, la taille. On se comprend. On ne peut pas faire cela lorsqu'on reçoit de l'argent de l'État. Sinon, on se fait retirer sa subvention et après, on fait quoi? On se transforme comme Radio Courtoisie, c'est-à-dire sans subvention. C'est la prochaine alternative. On vend de la publicité. Est-ce que Radio Courtoisie vendait de la publicité, M. Reichmann?
Non, pas du tout.
Pas
il
du
y avait
tout.
Ni publicité, ni subvention. Alors, c'est un modèle qui est évidemment difficile à tenir parce qu'il faut faire preuve d'une qualité constante. Car sinon, les auditeurs. Il ne faut pas oublier non plus qu'une radio qui diffuse par voie hertzienne, c'est par définition une radio que tout le monde peut écouter. Et donc, ceux qui cotisent sont des gens qui sont convaincus que ce qui se dit sur cette radio est utile, parce que les autres peuvent l'écouter gratuitement. Donc la cotisation n'est en fait que le fruit de l'adhésion à un programme, à un contenu ou à une option qui a été celle de Radio Courtoisie à ses débuts. Mais c'est un modèle qui est très exigeant, parce que vous imaginez bien que pour faire une bonne radio et pour la faire de manière durable et constante, il faut quand même avoir des gens qui sont capables de le faire, et ça ne court pas les rues, parce que l'amateurisme, ça va un moment, mais le fait de se contenter d'émissions ni faites ni à faire, c'est quelque chose qui finit par lasser les auditeurs, ce n'est pas parce qu'ils ne payent pas qu'ils ne sont pas exigeants. D'ailleurs, le plus souvent, ceux qui payent sont moins exigeants que les autres parce qu'ils sont davantage convaincus. Voilà. Mais en fait, ce qu'il faut surtout, quelques médias que vous fassiez, il faut avoir de la qualité. Vous savez, là actuellement, Reichmann TV marche très très bien.
C'est vrai.
Je ne dis pas ça pour me faire des compliments. Mais
Allez-y, c'est le temps. Il faut se lancer des... Attendez, là, monsieur Reichmann, il faut se lancer des fleurs par moment.
Oui, mais je vais vous dire pourquoi ce n'est pas à moi que je lance les fleurs.
Ah, d'accord.
Vous savez, il y a un aphorisme bien connu qui veut que une bonne mise en scène requiert trois conditions. La première, c'est une bonne distribution. La deuxième, une bonne distribution. Et la troisième, une bonne distribution. Alors, en fait, ce qui fait la qualité d'une radio, d'une télévision, ce sont les invités. Et évidemment, il faut les interroger d'une manière qui ne soit pas complètement stupide, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait des invités de qualité. Et c'est ce que vous essayez de faire sur Rocky, c'est ce que j'essaye de faire sur Reichmann TV. Et évidemment, c'est ce qui plaît aux gens, parce que si c'est vous qu'on entend tout le temps, bon, très bien, si les gens vous sont sympathiques, ça marche. Mais au fond, ce qu'ils veulent, c'est entendre des avis différents.
Tout à fait.
Entendre des gens qui ont des projets, qui ont des expériences. Et tout ça, c'est dû justement au fait qu'on est capable de recruter de bons invités. Et c'est vrai pour l'ensemble du système médiatique. Si vous n'avez pas de bons invités, vous ne ferez pas de bonnes émissions.
Ah ben,
c'est d'ailleurs pour ça que vous m'invitez, n'est-ce pas?
Aux dernières nouvelles, oui, effectivement, c'est pour ça que je vous invite. Ça n'a jamais été...
On vient de me décerner le prix de la modestie.
Oh! Le prix de la modestie, j'adore, j'aime bien.
Et... Vous savez qu'il y a d'ailleurs une histoire amusante. C'est, il y a eu une grande crise dans un petit village parce que on devait décerner le prix de l'homme le plus modeste. Et les gens se sont battus entre eux.
ça va très bien, la situation est bonne.
Il y en a aussi une autre, celle qui consiste à décerner le prix de la générosité. Alors ça, c'est une histoire. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une histoire, mais on me l'a raconté. On a un jour interviewé une dame qui venait d'être désignée comme la personne la plus généreuse de sa commune, parce qu'au cours d'inondations récentes, elle avait manifesté beaucoup de dévouement vers les gens sinistrés, elle s'était dévouée vraiment à 100% et les gens avaient reçu beaucoup d'aide de sa part. Et alors on l'a interviewée et on lui a demandé « Et maintenant, madame, quels sont vos projets ?» Elle a dit « Écoutez, moi j'attends maintenant avec impatience la prochaine catastrophe.
» La prochaine... bon sang, oui. Il y a des gens qui sont fans d'humour pince sans rire, humour pince sans rire.
Sans rire, voilà.
Oui, ouais, exactement. J'ai un article ici de Jean-Marc Leclerc du journal Le Figaro qui disait, enfin, le titre était « Première baisse des violences en France, Monsieur Reichmann par rapport, si on regarde 2007, si on fait une rétrospective de 2007, enfin, Jean-Marc Leclerc prend des statistiques à gauche et à droite et trouve que les personnes, qu'en France, il y a eu un ralentissement des violences. Est-ce que vous croyez, justement, ces suppositions faites par le journal Le Figaro que les violences sont en baisse de 11%, que les vols avec brutalité s'effondrent de plus de 11%, ou enfin des statistiques comme ça, ce ne sont que des chiffres, mais est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a des baisses de violences en France, M. Reichmann?
Écoutez, d'abord, je suis toujours un petit peu sceptique sur ce genre de chiffres, parce que ils sont recensés par la police, qui a intérêt à voir le nombre des agressions diminuer, parce que ce serait la preuve de son efficacité. Mais M. Leclerc devrait lire son journal plus attentivement.
C'est bon.
dans Le Figaro,
oui.
Il est indiqué que de 2001 à 2007, les violences aux personnes contre les personnes ont augmenté d'environ 19 à 20%. Vous vous rendez compte, hein? Et pendant toute cette période, l'essentiel de cette période, M. Sarkozy a été ministre de l'Intérieur. Et les incendies de voitures ont augmenté de 28% dans la même période. Donc, il se peut qu'il y ait eu une petite baisse de 2007 à 2006, c'est possible, je n'en sais rien, je n'ai pas le moyen de contrôler, mais c'est une baisse par rapport à une hausse. C'est-à-dire que si vous passez, par exemple, de 100 à 120, comme c'est le cas sur les agressions sur les personnes, si vous diminuez de 11%, 11% de 120, ça fait 12, d'accord?
Oui.
Et vous enlevez 12 et donc vous n'arrivez pas à une baisse. Bon, il y a peut-être une inflexion, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une courbe quasi constante de l'augmentation des violences, des destructions d'automobiles, à tel point même que l'Assemblée nationale est en train de voter une disposition visant à apporter une indemnité aux gens de conditions plus modestes dont la voiture a brûlé. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 40 à 50 000 voitures par an qui brûlent en France. Alors plutôt que de mettre le paquet et d'empêcher ceux qui les brûlent de le faire, on dit, bah, écoutez, on va indemniser ceux dont la voiture a brûlé. Non mais vous vous rendez compte le degré d'abaissement finalement de la responsabilité. C'est-à-dire que comme on ne peut pas empêcher, eh bien on paye. Voilà. C'est absolument lamentable.
C'est lamentable.
Vraiment, je trouve scandaleux qu'on accepte l'idée qu'il puisse brûler chaque année 50 000 voitures en France.
Vous voyez, ici, incroyable. Les chiffres ressemblent à ceci. Par exemple, elles ont même un peu diminué avec 433 000 faits signalés. Une baisse très modeste, là. Attention, là, c'est 0,2%, OK?
Au Canada?
Non, en France. En France, 0,2%, mais une baisse malgré tout. 0,2%. Ah, oui, bon sang, M. Reichmann, attention, là, je vais applaudir. Là.
Bravo, bravo, bravo.
Voilà.
Ça ne s'appelle pas une baisse, ça ne s'appelle pas une baisse. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est éviter d'examiner des chiffres de façon isolée. Ce qui est intéressant, ce sont les courbes, les évolutions. Et il est évident que quand on passe à une augmentation des violences aux personnes et des vols de voitures situés entre 20 et 30% sur 5 ans, ça veut dire que les choses s'aggravent. Ça ne veut pas dire que les choses s'améliorent. Alors on peut toujours dire, par exemple, il fait au Canada moins 20, il y a un gros réchauffement climatique, il fait moins 19. Donc si vous voulez, voilà à peu près le type de raisonnement qu'on tient dans cette affaire. C'est ridicule. Bon, le fait qu'il fasse moins 19 ne fait pas que M. Ismaël Trépanier va sortir en maillot de bain dans la rue, quoi. C'est...
Oui.
Oui. Bon, si alors, vous le faites, c'est que ça va plus très bien chez vous. Quoi.
Non, vous tout à fait. Alors, plus spectaculaire encore, avec environ 110 000 actes constatés, les vols avec violence ont subi un net recul de 11 %. Ils en viennent à 11 % l'an dernier. Alors, on parle bien sûr de 2007. Et le ministre de l'Intérieur, Michel Alliot-Marie, qui commente ces chiffres aujourd'hui, enfin, qui a commenté ces chiffres, pardon, lors de ses vœux de presse, veut évidemment y voir un effet de son action à la tête de la police et de la gendarmerie. Oui. S'il vous plaît.
Bien entendu,
s'il vous plaît.
Elle ne va pas publier un communiqué.
Mais non.
Je suis une minable. Je n'arrive même pas à enrayer la violence. Videz-moi en vitesse, quoi.
S'il vous plaît.
Donc effectivement, bon, tous les ministres ont tendance à valoriser leur bilan, mais les gens ne s'y trompent pas, le bilan de la sécurité n'est pas bon en France, il est même très mauvais, et donc il ne faut pas espérer que les choses s'améliorent tant qu'il existera encore 750 à 1000 quartiers de non-droit, c'est-à-dire des quartiers où le droit n'est pas respecté, où ça n'est plus, on n'est plus dans un pays libre et démocratique.
Nous avons un auditeur qui aurait aimé vous poser une petite question, M. Reichmann. Vous y voyez pas vous y voyez pas de problème?
Non, pas du tout.
Il va vous la poser live. Nous allons nous connecter directement avec cet auditeur. Ne vous inquiétez pas, j'ai filtré, bien sûr, avant. Alors, justement, nous connectons avec un auditeur nommé Nato, plus exactement. Oui? Est-ce que, Nato, vous nous entendez?
Oui, bien sûr, Ismaël, je t'entends.
Bonjour, Nato. Alors, posez la question à M. Reichmann, mon cher ami. Allez-y.
Oui, bien sûr. Bonjour, Monsieur Reichmann. Content de vous parler depuis le temps que je vous connais, notamment sur Radio Courtoisie.
Oui.
Il y a quand même une question qui me turlupine depuis des années, depuis que je suis en fait vos interventions, que je me sens proche de vous par beaucoup d'opinions. Vous semblez quand même croire encore à une solution politique au problème dans lequel on se trouve en France et plus largement en Europe. Mais moi, je ne suis pas politicien et je me rends compte qu'il n'y aura pas de solution politique. Alors, ben, je ne sais pas, je voudrais avoir votre avis. Moi, je trouve ça étonnant que vous persistez. En fait, c'est pas une critique, mais c'est une question. Je trouve ça étonnant que vous persistiez à essayer de trouver une solution politique à tous les problèmes qu'on peut avoir en France.
Écoutez, je vais vous répondre. D'abord, bonjour monsieur, ravi de vous parler, ravi de parler à quelqu'un qui suit nos actions. Ce que vous dites n'est pas tout à fait vrai. Je ne crois pas à une solution par la politique actuelle. Je pense, et je l'ai dit et écrit souvent, le système politicien français est un système qui est mort, selon moi. On ne peut rien en attendre, et je crois qu'il conduit le pays à l'abîme. Mais une fois que l'abîme sera atteint, une fois qu'il va se passer des événements qui, à mon avis, risquent d'être graves, il faudra bien en sortir d'une manière ou d'une autre. Et c'est à ce moment-là que les propositions politiques que nous faisons auront peut-être une chance d'être entendues par le peuple. Parce que comment sort-on d'une solution, d'une situation grave ? Eh bien, on peut en sortir en gros par deux moyens, par la dictature, ce qui n'est pas notre fait, ou par des solutions que l'on qualifie de démocratiques. En ce qui me concerne, je préfère les solutions tout à fait démocratiques. Donc, ce que nous espérons et l'action que nous menons a pour objectif, très simplement, d'obtenir le moment venu la confiance du peuple pour mettre en œuvre des solutions qui ne seront pas du tout celles qui sont actuellement en cours. Et pour ne vous donner qu'un exemple, le régime actuel n'a été capable que d'une chose, c'est de prélever toujours plus, de répartir à des gens de moins en moins méritants et de priver finalement ceux qui travaillent et ceux qui sont des gens dévoués à leur pays et à leur civilisation, de les priver de tout moyen d'existence. C'est le contraire qu'il faut faire. Et c'est ce que les Français avaient cru comprendre en entendant M. Sarkozy parler de rupture. Personnellement, je n'ai jamais cru une seconde que sa rupture consistait à faire vraiment la rupture dont nous avons besoin, parce que c'est un homme du système et qu'il ne peut pas imaginer autre chose. Mais en ce qui nous concerne, les solutions politiques que nous préconisons n'ont rien à voir avec les solutions actuelles. Mais là où vous avez raison, et je continue de croire à la politique, c'est qu'à la fin des fins, il faut bien passer par la politique. Comment voulez-vous ? Qui peut vous donner le pouvoir de faire quelque chose sinon le peuple ? Donc si vous ne croyez pas à la politique, et une fois encore pas à celle d'aujourd'hui, à laquelle personne ne croit, personne de sérieux ne peut plus croire, mais si vous ne croyez pas à la politique, il ne vous reste plus, au fond, que des moyens de coercition ou des moyens violents éventuellement, et ça c'est le propre de régime que personnellement je condamne. Je Bien pense sûr, vous avoir répondu aussi clairement que possible.
Oui, c'est sûr, enfin c'était à peu près les réponses plausibles que j'avais imaginées, mais dans l'histoire tous les changements ne sont jamais arrivés pacifiquement, il y a toujours eu...
Non mais vous avez raison, mais mon nounou, Je précise effectivement cela en m'appuyant sur votre remarque. Je ne pense pas que dans le système actuel, nous ayons la moindre chance de nous imposer politiquement, parce que le système truc et triche. Donc il empêche les gens de se présenter, il matraque les médias, enfin il fait tout ce qu'il faut pour que personne ne puisse émerger. Mais lorsque ce système va s'effondrer, je crois qu'il n'y a plus guère d'autre issue pour lui que cela, eh bien, il y aura une phase effectivement très difficile, et rien ne dit que cette phase se terminera de façon démocratique. Ça peut très bien se traduire par un démagogue quelconque, d'extrême gauche de préférence d'ailleurs, parce que c'est en général ceux-là qu'on les recrute. N'oublions quand même pas que Mussolini et Hitler étaient des gens de gauche, c'est pas des gens de droite, contrairement à ce qu'on a dit. Donc ouais, il n'est pas impossible que si la France arrive dans une situation chaotique, qu'un dictateur de gauche ne surgisse. Mais nous, évidemment, nous récusons cette solution qui nous paraît la pire de toutes. Mais si la France arrive à sortir de son chaos d'une manière à peu près rationnelle, c'est-à-dire en disant, bon, écoutez, maintenant, il est temps de se mettre d'accord et de choisir des représentants dignes de confiance d'une part et capables de redresser le pays, à ce moment-là, les offres que nous faisons et que d'autres font également ont une chance d'être entendus, et donc, à ce moment-là, ben, le pouvoir nous sera conféré, et ce sera à nous d'en être dignes. Mais je suis d'accord avec vous pour penser qu'on ne passera pas de la phase actuelle à une phase qui remplacerait les gouvernants d'aujourd'hui par des gouvernements dignes de confiance, sans faire l'économie d'une phase très difficile, qui peut même être très chaotique.
Moi, je pense que l'État, que ce soit en France, en Europe, en Amérique du Nord, les États s'efforcent à maintenir le peuple, la tête du peuple hors de l'eau, mais quand même relativement assez près pour pouvoir les noyer à tout moment. Malheureusement, je pense que cette situation peut durer si jamais les peuples, je dis bien les peuples, ne prennent pas l'initiative du changement. Alors quand je dis les peuples, évidemment, je pense pas à la masse qui regarde Star Academy à la télévision. Cela, je pense que c'est cuit. Je pense à une poignée d'hommes qui seront prêts à se lever et aux quatre coins du monde pour dire bon maintenant on arrête quoi. Parce que je vois que
oui, bah, au Québec. Vous avez raison, Québec, il faut toujours
aussi.
Il faut toujours quelqu'un qui se lève. Et le problème, c'est que, vous savez, il y avait un dessin dans humoristique dans un journal qui était à la fois très drôle et très cruel. Il montrait un type qui manifestait dans la rue avec une pancarte sur laquelle il y avait inscrit « Unissons-nous ». Et il était tout seul.
Oui, oui.
Donc, vous voyez, là, c'est un petit peu la difficulté de l'exercice. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se lever et de dire qu'il faut se révolter contre un système que vous avez très bien décrit. Non, il faut vraiment qu'il y ait un mouvement qui se crée. Et là, ce sont les mystères des mouvements de foule. Vous savez, c'est très compliqué. Alors, la foule peut être peu nombreuse, mais le simple fait que quelques dizaines d'individus s'agrègent, se rencontrent et décident de passer à l'action, c'est-à-dire de se mettre sur la place publique et de protester, etc., c'est très difficile parce que la plupart des gens ne pensent qu'à une chose, c'est rester chez eux tranquille.
Ouais, mais donc, excusez-moi, Monsieur Reichmann, vous avez. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je ne suis jamais venu au Jean-François Copé. C'est oui. Que vous avez une vision. C'est tout à votre honneur d'ailleurs, une vision démocratique de l'action. Mais c'est impossible. Enfin, je suis persuadé que c'est cuit. Enfin, je veux dire, manifester, ça ne sert à rien si ce n'est que de se faire prendre en photo par les services de renseignement.
Exactement.
Ça ne sert plus à rien.
Non, là, je crois que vous êtes d'un pessimisme tout à fait excessif. Non, je ne crois pas du tout. D'ailleurs, sachez que les manifestations, par exemple, de la Révolution bleue, ont provoqué la vague bleue qui a permis à M. Sarkozy d'être élu. Alors vous allez me dire que ce n'est pas un résultat dont on peut être particulièrement satisfait, dans la mesure où il ne fait pas grand-chose. Mais en réalité, il ne faut pas juger cette affaire simplement d'après ses premiers résultats. Le courant qui s'est créé, c'est-à-dire le courant de rupture, en quelque sorte, que M. Sarkozy a chevauché, est un courant qui lui est largement supérieur, c'est-à-dire c'est un courant beaucoup plus profond et beaucoup plus vaste. Actuellement, il est en train de terminer sa phase de lune de miel avec l'opinion, c'est même en train de se renverser, et le courant, lui, existe toujours. Ne croyez surtout pas que les Français, parce qu'ils ont élu un président de la République qui se réclamait de la rupture, sont satisfaits de voir que cette rupture n'a pas lieu. Moi, je pense que nous ne sommes qu'à la veille des événements, il ne faut pas juger des choses uniquement à travers les premiers éléments d'une situation, il faut avoir une vision historique des choses. Je recevais tout à l'heure un adhérent d'une des associations que je préside et il me racontait que certains qu'il avait rencontrés ici et là en France lui disaient « Oui, Claude Reichmann, effectivement, il a raison, mais au fond, les résultats n'arrivent pas, etc. » Alors je lui ai dit « D'abord, des résultats, il y en a eu et on peut les énumérer, mais surtout, il ne faut pas juger des choses en étant devant un mur. » Derrière le mur, il y a un paysage. Donc ce qu'il faut, c'est regarder par-dessus le mur et voir le paysage qui s'offre. Et moi, je dis que ce paysage va s'ouvrir parce que le mouvement, les Français sentent bien... D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes français ou canadien, mais si vous vivez en France...
Français, monsieur Reichmann.
J'habite à 50 km de chez vous, en fait.
D'accord, bon, bien donc... Ma question ne visait qu'à savoir si vous réagissiez en observateur ou en participant éventuel.
Ah, je suis vraiment participant, oui, tout à fait.
Voilà.
Ouais.
Donc,
ou victime, enfin, ça dépend de quel côté.
Ou victime, si vous préférez. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans une situation qui est très évolutive. Nous sommes entrés dans une phase de changement très profonde de la société française et l'action que nous menons vise précisément à accentuer ce changement dans le bon sens et le moment venu, pour ceux d'entre nous qui en seront capables, à en être les acteurs essentiels. Et je ne pense pas que l'on puisse dire que rien n'est possible, ni qu'aucun résultat ne puisse être obtenu, parce que sinon, à quoi bon parler, à quoi bon entreprendre quoi que ce soit. Donc moi je pense que tout est parfaitement faisable. Je sais que c'est difficile, je suis même bien placé pour le savoir, parce que ça fait de longues années que je me bats, mais je crois que nous pouvons conserver un certain espoir de victoire, tout simplement parce que, et là c'est une expérience que vous pouvez faire vous-même, et je suis sûr que vous la faites, quand vous parlez avec des gens, quels qu'ils soient, vous êtes surpris sûrement qu'ils disent tous à peu près la même chose. Ça ne peut plus durer.
Merci, merci à Nato pour justement d'être intervenu et d'avoir posé. Ben, dans le fond, on remercie Claude Reichmann d'avoir accepté de vous avoir écouté, mon cher Nato.
Eh ben, merci à vous.
Eh ben, on vous souhaite une excellente journée, Monsieur Reichmann.
Oui.
Déjà, faut se quitter. Mais par contre, comme
ne me dites pas ça, je commence à pleurer. Déjà.
Ben, je sais, mais comme la chanson, une chanson française, ne me quitte pas. Mais il y a aussi, je reviens te chercher, voilà. On pourra se reparler la semaine prochaine, vendredi
avec
proche.
Et au fond, on va peut-être. Pouvoir adopter, vous savez, il y a une pièce de l'auteur britannique
oui.
Jim Saunders
oui.
qui s'intitule « La prochaine fois, je vous le chanterai ». Alors, puisqu'on en est à parler de chansons,
oui.
Après tout, pourquoi un jour ne pas faire...
Ah ben, certainement.
Faire une comédie musicale. Je ne sais pas si vous chantez bien, mais enfin...
Je ne suis pas mauvais. Je ne suis pas mauvais, je suis capable de... Je me débrouille,
bon,
Monsieur Reichmann.
On se fera une petite répète, comme on dit, dans les milieux du spectacle.
Oui.
Et puis, on infligera le spectacle à nos auditeurs.
Exactement. Merci, Monsieur Reichmann. Excellent week-end à vous.
À la semaine prochaine.
Au revoir.